Bien, merci beaucoup et on vous propose de démarrer tout de suite en accueillant Thomas Morisset pour une présentation intitulée « Le geste technique et ses résistances », une lecture de « Ce que c'est la main » de Richard Sennett.
Et bonjour à toutes et à tous. Et oui, il y a même un philosophe ici. Et j'espère que à la fin de cette présentation, je vais quand même montrer qu'il y a peut-être un peu d'intérêt à ce que je sois là. Donc, le livre dont je voudrais vous parler aujourd'hui, c'est sans doute un livre que vous devez connaître, qui est « Ce que c'est la main, la culture de l'artisanat » de Richard Sennett. Et « Ce que c'est la main », c'est une traduction assez étrange, dans la mesure où le titre original, c'est « The Craftsman », ce qu'il faudrait traduire par, en fait, « l'artisan » ou « l'homme de métier ». Mais en fait, avec la réunion du titre anglais et du titre français, on a un bon panorama de ce que veut faire ce livre. D'une part, il y a une défense de l'artisanat et de l'idée de métier, qui est compris comme, je cite, « un élan humain élémentaire et durable, le désir de bien faire son travail en soi ». Et cette défense, d'ailleurs, se fait contre une partie de ma propre discipline, qui aurait justement injustement rejeté le métier à une espèce de soumission à la matière. Bon. Et de l'autre, ce que c'est la main, il s'agit effectivement de montrer en quoi il y a du savoir dans ce qui a été considéré comme du travail manuel, et notamment comment ce travail manuel, ce que vous le savez sans doute bien mieux que moi, est un savoir qui demande une grande imagination. Et dans la mesure où, pour Sennett, le bon geste technique, c'est ce qu'il appelle un geste imaginatif. Et surtout, ce geste imaginatif, le geste fécond techniquement, il va être pour Sennett lié à une résistance. Il va y avoir justement un geste imaginatif quand on va se retrouver avec un outil mal adapté, qu'il va falloir réadapter pour autre chose, face à une machine qui va être un petit peu une espèce de modèle pour réinventer, on va dire, nos gestes. Et c'est donc cette idée de résistance qui va être le moteur de l'imagination pour pouvoir résoudre des problèmes techniques. Et Sennett insiste beaucoup sur le fait que cette résistance, le geste technique progresse et fait mieux quand il ne va pas chercher à contrer cette résistance, mais à travailler avec la résistance de la matière. Quand justement il va y avoir un dialogue qui se fait avec la matière travaillée. Et au fond, quand Sennett dit ça, alors il le montre notamment avec toute une histoire industrielle du creusement des tunnels sous la Tamise, mais il montre que cette recherche de moindre violence par rapport à la matière, d'aller avec la résistance plutôt que contre elle, c'est en fait finalement la prolongation d'un adage très basique finalement sur du travail manuel, qui est celui de la moindre résistance. C'est-à-dire que, comme il le dit, la moindre résistance, c'est la force minimale associée au relâchement de la main. C'est-à-dire que le bon geste technique, c'est bien effectivement le geste qui ne vous flingue pas votre main ou votre outil de travail, mais fait état de la moindre résistance. Et ce qu'il faut remarquer ici, c'est que pour Sennett, il distingue, on va dire, deux types de résistance. Celle qu'on trouve dans la matière, il parle par exemple du nœud du bois, il parle aussi de la boue sur un chantier, ou justement la résistance, on va dire, du projet lui-même. C'est-à-dire que vous voulez peindre quelque chose, vous peignez un visage, ce visage ne vous plaît pas, vous effacez tout, vous recommencez. C'est-à-dire que là, le problème n'est pas forcément dans la matière, mais dans ce que vous voulez porter comme projet. Alors, et ce qui veut dire que pour Sennett va ici penser la résistance comme un obstacle, ce qui lui fait définir la résistance, je cite, comme des faits qui se mettent en travers de la volonté. Et Bah, c'est là que j'aimerais, on va dire, intervenir. Et surtout, interroger cette définition de la résistance comme des faits qui se mettent en travers de la volonté. Parce qu'il me semble que, par sa trop grande généralité, cette définition masque une part de la réalité technique de la résistance et surtout de la diversité technique de cette résistance. C'est-à-dire que réduire la résistance à un fait, c'est justement manquer le fait justement que la pensée et l'acte technique construisent cette résistance autant qu'ils la trouvent dans la matière ou dans l'action. Et que c'est dans le lien à la résistance justement que se joue une bonne partie de l'articulation de la technique à d'autres domaines humains comme la culture ou la philosophie. Enfin, la culture en général et la philosophie. Et c'est pour ça que j'aimerais interroger cette notion de résistance de deux points de vue. D'abord, on va dire du point de vue, disons, métaphysique, en montrant que la résistance de la matière, pour être appréhendée, ne se résume pas juste à sentir un truc qui bloque dans votre morceau de bois, mais que dans l'épreuve vécue de cette résistance, ça implique toujours une vision, on va dire, du monde, de la manière dont la technique s'inscrit dans le monde, qui du coup, là, devient assez rapidement philosophique. Ça, c'est une première chose. Et la deuxième manière avec laquelle je voudrais interroger cette résistance, et qui explique un peu peut-être pourquoi je suis là aujourd'hui, c'est de manière sans doute plus pratique, à partir d'un exemple de métier, alors est-ce que c'est un métier d'art, vous me le direz, qui est celui du chant, et du chant lyrique en particulier. Dans la mesure où, si mon métier principal, c'est la philosophie, il se trouve que je sais un tout petit peu chanter, et qu'une part de mes recherches sont des recherches sur le geste et sur l'effort. Au départ, j'ai travaillé sur l'effort dans les jeux et dans les jeux vidéo normalement, mais il se trouve que je travaille aussi un tout petit peu sur l'effort chanté. Et il me semble que dans le chant, il y a une pratique justement et une expérience de la résistance qui ne se laisse pas justement tout à fait réduire à cette idée de résistance comme étant un simple fait qui se met en travers de vous et qui permet justement d'interroger l'idée de ce modèle de force minimale associée au relâchement de la main. Et avec tout ça, dans un temps assez bref de conclusion, j'essaierai de montrer que tout ça permet de remettre aussi en perspective, une dernière forme de résistance du geste technique, c'est la résistance du geste technique à la mise en langage. Puisque Sennett, dans son livre, au tout début, dit que le langage, je cite, « le langage ne serait pas un bon outil spéculaire pour les mouvements physiques du corps humain. » Un outil spéculaire adéquat pour les mouvements du corps humain. C'est-à-dire que, en voulant décrire par les mots les gestes, on perdrait forcément toujours quelque chose. Alors, je ne suis pas en train de vous dire que le langage va pouvoir saisir parfaitement les gestes, mais cette idée, en fait, que il y aurait une... Enfin, j'aimerais peut-être un petit peu conclure sur... Il y a peut-être moins d'imperfections dans le langage que ce que, à mon avis, met Sennett dans son livre. Voilà pour, très rapidement, le plan des quelques 15 minutes qu'il me reste à parler. Alors, le premier point, comme je vous l'ai dit, c'est d'essayer de penser qu'est-ce que c'est que cette résistance ? Et pourquoi cette résistance, c'est pas juste un fait ? Pour comprendre ça, je voudrais comparer deux textes d'époque, on va dire, et de contexte philosophique un petit peu différent. Le premier, c'est une fable. Une fable qu'on trouve dans le Chuang Tzu, donc dans un texte chinois fondateur du taoïsme, et on trouve la fable du boucher virtuose Pao Ding, qui, en réponse aux acclamations d'un prince, répond la chose suivante. Parce que il a coupé magnifiquement le bœuf, et le prince dit « Mais comment fais-tu ?» Et il répond la chose suivante. « Vous savez, ce qui m'intéresse, ce n'est pas tant l'habileté technique que l'être intime des choses. » Ce qui est traduit ici le Dao. « Lorsque j'ai commencé à exercer, j'avais tout le bœuf devant moi. 3 ans plus tard, je ne percevais plus que les éléments essentiels. Désormais, j'en ai une appréhension intuitive et non pas visuelle. Mes sens n'interviennent plus. L'esprit agit comme il l'entend et suit de lui-même les linéaments du bœuf. Lorsque ma lame tranche et sépare, elle suit les fentes et les interstices qui se présentent, ne touchant ni aux veines, ni aux tendons, ni à l'enveloppe des os, ni bien entendu à l'os lui-même. Donc c'est fantastique, il coupe du vide, mais il coupe quand même le bœuf. C'est plus ou moins ce qu'il est en train d'expliquer. Donc ça, c'est un premier récit. Le second récit, plus proche de nous, c'est un récit qu'on trouve chez Gilbert Simondon, philosophe français de la technique, dans sa première thèse « L'individuation à la lumière des notions de forme et d'information », où il décrit assez rapidement l'utilisation du rabot. Je cite à nouveau. « Savoir utiliser un outil, ce n'est pas seulement avoir acquis la pratique des gestes nécessaires. C'est aussi savoir reconnaître à travers les signaux qui viennent à l'homme par l'outil la forme implicite de la matière qui s'élabore à l'endroit précis que l'outil attaque. Le rabot n'est pas seulement ce qui lève un copeau plus ou moins épais. C'est aussi ce qui permet de sentir si le copeau se lève finement, sans éclat, ou bien s'il commence à être rugueux, ce qui signifie que le sens des lignes de bois est contrarié par le mouvement de la main. » Fin de citation. Alors, qu'est-ce que nous apprend la comparaison de ces deux textes et pourquoi je les mets en regard ? Alors déjà, tout de même, y a un petit écueil à cette comparaison, en plus de la distance, on va dire, temporelle. C'est que d'un côté, on a la description véritablement d'une opération technique. De l'autre, on a une fable de lettré dans laquelle apparaît un boucher qui semble parfaitement au fait de ce que c'est que la philosophie taoïste. Ce qui amène un petit peu à un soupçon, c'est qu'il serait au fond moins de questions de boucherie dans cette fable que de philosophie. Ce qui n'est pas entièrement faux. Mais, d'une part, il me semble que les deux textes décrivent un geste artisanalement correct, c'est-à-dire la recherche du geste qui coûte le moins d'effort, pour son porteur comme pour son objet, qui fait la moins violence à son objet, au moyen d'une reconnaissance de ce que contient la matière en train d'être travaillée. Je vais revenir sur ce que contient la matière juste après. D'autre part, c'est que ces deux textes, justement, ils vont montrer que la perception de ce qu'il y a dans la matière, une certaine qualité philosophique de la matière, change l'imperception interne qu'on a d'un geste qui, de l'extérieur, peut avoir l'air identique. Alors, en effet, comme je l'ai dit, les deux textes semblent se rejoindre en caractérisant l'opération technique la moins violente possible. Mais la comparaison doit s'arrêter ici, parce qu'en fait, dans la fable de Chuang Tzu, on a le Dao, qui serait donc fondant la matière, et dans ou l'être intime des choses en traduction, et dans chez Simondon, on aurait la forme implicite. Et ce n'est pas du tout la même chose. Chez Simondon, la forme implicite, c'est quelque chose de sensible, parce qu'il s'agit justement d'une forme qui s'éprouve dans l'activité technique lorsque l'outil se fait en même temps instrument de perception et qu'on perçoit à travers le rabot l'état justement du bois. Donc la forme implicite, ça a bien une existence concrète et matérielle et c'est elle qu'on atteint grâce à l'instrument. Mais en même temps, c'est une idée extrêmement importante du point de vue philosophique, cette forme implicite. Parce que la matière contienne des formes, c'est un des arguments de Simondon contre ce qu'on appelle le schème illémorphique, c'est-à-dire l'idée que la matière, c'est juste un espèce de gloubi-boulga informe qu'on viendrait informer de l'extérieur, que la matière serait une pure passivité, que l'activité humaine viendrait informé et augmenté par la même occasion. Et du coup, avec une activité qui serait, en fond, supérieure. Au fond, en l'idée qu'il y a une forme implicite dans la matière, ça rehausse, quelque part, le statut de la matière et donc de l'activité, en fait, touche à la matière. Ça, c'était pour Simondon. Dans le récit du Chuang Tzu, le geste technique ne met pas en rapport le sujet, enfin l'artisan, et une forme, ou le sujet et une matière, mais il met en rapport le sujet et le Dao, ce qui est assez différent. Parce que le Dao, dans la tradition taoïste, ce n'est pas une forme, ça n'a pas de forme, mais c'est ce qui donne la forme aux choses. Et finalement, c'est une espèce de principe finalement qui ne donne, qui n'est pas une forme, mais qui est, informe tout de même les choses en tant que telles. Et donc, dire que le geste technique permet d'être en relation par l'esprit, d'ailleurs plus que par la matière, avec le Dao, signifie que le geste technique, ça vise un idéal ici vraiment métaphysique, qui est celui de la non-intervention. La non-intervention, qu'est-ce que c'est ? Ça veut dire que l'idée, c'est que la bonne action, c'est celle qui permet de au cosmos de s'accomplir sans violence, harmonieusement. Justement, vous agissez, la non-action, c'est le fait d'agir sans déranger un maximum les choses. Et c'est bien ce qu'il dit dans la fable. Je coupe, mais en fait, je coupe quasiment que du vide. Je touche même pas au tendon, je coupe dans l'espèce d'interstice de la matière où se logerait effectivement le Dao. Et cela, en fait, est confirmé par la suite de l'histoire, parce que Pao Ding se vante de n'avoir pas changé de couteau depuis 19 ans, dans la mesure où, justement, par sa clairvoyance du Dao, le couteau tranche la viande, mais en coupant au fond du vide. Cette idée, effectivement, de non-intervention, il a juste presque à décoller les fibres de nourriture. Mais alors, ce geste, justement, ici, ce geste est clairement un idéal. Et c'est confirmé effectivement par la suite de la fable qui lit la chose suivante. Quand je rencontre une articulation, je repère l'endroit difficile, je le fixe du regard et précautionneusement, je le découpe. Donc là, ce qui m'intéresse philosophiquement, c'est qu'on a un retour des sens. Le regard et le toucher sont de nouveau mis en jeu. Alors que Pao Ding disait avant qu'il ne voyait que l'esprit. Donc quand même, parfois, il faut quand même qu'il fasse un peu appel à ses sens. Et... justement en sentant des informations à travers le couteau. C'est le couteau qui lui donne les informations sur l'état de la matière. Mais justement, alors que chez Simondon, le geste qui suit les lignes de la matière suffit pour décrire ce que c'est que l'opération technique dans son intégralité et dans sa dignité, c'est pas le cas ici. Le geste qui s'appuie sur les sens, c'est une approximation d'un geste idéal, et c'est donc vécu non pas comme un accomplissement du geste technique, mais comme un effort de correction face à une résistance, face à une situation difficile, et c'est vécu comme la trace justement de la difficulté à atteindre ce qui serait le Dao. Ce qui signifie, c'est qu'un même geste de découpe avec une lame n'est pas vécu de la même manière en fonction des entités qu'on place dans la matière auxquelles se rapporte l'opération technique. Parce qu'au fond, qu'on voit dans la matière un Dao ou des formes implicites, bah, ça fait qu'on ne va pas comprendre de la même manière la résistance. Ah, je rencontre une forme, mais c'est comme ça. Ou ah, bah non, je rencontre en fait ma propre limite parce que je n'arrive pas à voir véritablement le Dao. Ça infléchit du coup le sens et le sentiment de l'effort. Et ça infléchit ce qui va être caractérisé comme un geste techniquement correct. Alors, du coup, ici, dans ce cas-là, en plus, pour le coup, pour revenir à cet exemple du Dao, on voit bien que l'idéal du geste, en fait, c'est presque un geste très abstrait, en fait. Que là, on a vraiment ici un boucher qui est en train de dire à des lettrés, oui, quand même, les lettrés qui regardent de loin, c'est quand même un petit peu mieux que ce que je fais. Bon, il y a quand même une hiérarchie qui s'y présente, qui l'est quand même beaucoup moins chez Simondon. Mais, en fait, ce que je vraiment voulais montrer, c'est que cette résistance, on va aussi la vivre à travers les concepts qu'on a. Et que c'est au travers de la résistance et comment on comprend cette résistance de la matière qu'on peut voir comment la technique s'articule au reste de la culture et s'articule à différentes formes de pensée comme peut l'être la philosophie. Et que donc c'est aussi par là qu'on peut avoir un rapprochement possible entre philosophie et technique. Alors, mais du coup, ici, je me suis concentré sur la résistance comme, on va dire, ce qu'on rencontre. Or, il y a un oubli dans le livre de Sénète, qui n'est pas vraiment un oubli, c'est qu'il y a une autre manière, peut-être, de rencontrer la résistance dans le geste technique. Et cet oubli, il est au fond lié au fait que Sénète travaille surtout sur des techniques manuelles, et comment lui reprocher, vu que la quasi-société des techniques passe par la main. Or, je voudrais ici très rapidement vous parler d'une technique qui ne passe pas par la main, qui est le chant. Et si je vais avoir besoin bientôt. Et pour ça, parce qu'il y a, il y a une manière qu'a... parce qu'au fond, la résistance, dans le champ, c'est ce avec quoi on travaille. Et c'est ce avec quoi on travaille parce que c'est ça qu'on va créer. Je vous montre un petit extrait très rapide. Donc on est donc dans du... Donc, juste pour vous dire, donc on est dans l'opéra baroque. Leonardo Vinci n'est pas Leonardo de Vinci. Sa vie a deux siècles d'écart. Ça va être. Et je vous demanderai juste de regarder, non pas tant ce que fait le chanteur, mais ce qui se passe dans son dos. Qu'est-ce qui se passe dans son dos? En fait, là, vous avez derrière en fait, des techniciennes qui ont dans la diégèse sont les gardes, c'est Arbace, qui est son personnage, est ici en train d'être arrêté. Mais en fait, on voit assez distinctement qu'il y a une des techniciennes qui lui met la main dans le dos en permanence pour le soutenir. Ce qui se voit aussi au niveau du bras, il a une deuxième technicienne qui le tient au niveau du bras, et le moment où il la perd, il est là comme ça, mais, oh, où es-tu? Et quand il la rattrape, Il la serre assez fort.
Il lui jette un méchant regard.
Pardon ?
Il lui jette un méchant regard parce qu'elle n'a pas
fait
le bon moment.
Ah, possiblement. Mais, alors, pourquoi est-ce qu'il y a besoin de ça ? Pourquoi est-ce qu'il y a ce besoin d'avoir des gens qui le soutiennent ? Ce qu'il faut voir, c'est que la résistance, c'est, on va dire, quelque chose qui est nécessaire au travail du chant et du chant lyrique en particulier. Mais la résistance, ça nomme ici l'effort pour constituer la matière qui est travaillée. C'est-à-dire que, contrairement effectivement au travail d'un bloc de marbre qu'on voit devant nous, ouais, la résistance, c'est ce qu'on doit créer. Notamment parce que une part de la technique du chant, ça revient à freiner, on va dire, notre expiration en continuant, on va dire, en gardant les muscles inspirateurs comme si on inspirait. Et c'est ça qui crée en fait de la pression sous-glottique, qui fait qu'on va pouvoir projeter la voix. Et là, en fait, on est au cadre où cette résistance, elle est tellement forte qu'il a besoin d'un deuxième corps pour pouvoir créer sa propre résistance. La voix dépasse effectivement ici le propre corps de Fagioli, et c'est ce qui rend un peu la performance un peu démesurée, parce qu'il a besoin d'un autre corps qui le soutienne pour réaliser sa voix. Alors, du coup, cette résistance ici, on voit que cette résistance... c'est pas la rencontre avec une forme implicite, parce que justement, c'est quelque chose qu'on doit créer. Si on comprend cette résistance comme le fait de rencontrer le Dao de la voix, le souci qui peut un peu se passer, c'est que, parce qu'on a besoin d'un laisser-aller, on va dire, en chant. Justement, si on résiste ici, c'est pour qu'ici, justement, il y ait le moins d'efforts possible, parce qu'on ne doit surtout pas mettre d'efforts au niveau de la gorge. Mais penser que ça, de cette manière, c'est aussi... avoir une conception un petit peu trop sono-centrée de la voix, le fait que la voix n'est pas que du son, c'est aussi vraiment un mécanisme corporel en dessous. Et en fait, la résistance ici qu'on rencontre, c'est qu'en fait, on rencontre un point d'équilibre musculaire entre différentes dynamiques corporelles qui créent la matière travaillée. Et là, ici, ce qui est impressionnant, c'est que le point d'équilibre est hors du corps de Fagioli, donc normalement le point d'équilibre pour créer la voix, elle est dans notre corps. Mais en tout cas, ça montre que cette résistance, en fonction des techniques considérées et en fonction finalement aussi des environnements culturels considérés, du coup n'est pas exactement la même. Et que ça participe d'un phénomène qu'on va appeler avec Yukrui la technodiversité. Le fait, c'est-à-dire qu'il n'existe pas une forme de technique universelle, mais que toute technique doit se penser dans une diversité à la fois des cultures et des manières de faire. Et j'en viens du coup très rapidement à ma conclusion de tout ça. C'est que, un, pour vous montrer effectivement que cette résistance n'est pas qu'un obstacle, elle peut aussi être autre chose. Et surtout que c'est au travers de la résistance qu'on va pouvoir penser justement le rapport entre la technique et sa mise en mots. Dans la mesure où le fait même de mettre en mots la technique, le fait même d'appeler résistance, on va dire, cet effort pour créer la pression sous-glottique, ça, c'est quelque chose qui va aussi guider, dans le cas du chant, la manière qu'on a de chanter. Et très rapidement, pourquoi il y a une résistance, effectivement, on va dire, du langage au geste, c'est que comme vous le savez aussi bien que moi, pour apprendre à faire un geste, on a souvent besoin d'images. Et ces images, Richard Sennett dit qu'elles sont vagues plutôt qu'exactes. Je ne serais pas tout à fait d'accord pour dire que les bonnes images, notamment dans le chant, on a beaucoup de métaphores, sont vagues. Je pense au contraire qu'il faut défendre l'idée qu'il y a une justesse des images. Justesse, en fait, qui n'est pas effectivement une exactitude scientifique, mais qui permet justement d'avoir accès à, on va dire, cette part langagière du geste technique. C'est-à-dire que les métaphores, pour moi, sont une part du geste technique, et non pas seulement une approche pédagogique, dans la mesure où la métaphore peut changer notre perception du geste. C'est vraiment très clair dans, pour le coup, pour le chant, on pourra parler prendre des exemples si vous le voulez après. Et que donc c'est là-dessus effectivement qu'il y a, on va dire, un intérêt de la philosophie pour penser le geste technique. C'est-à-dire que bien sûr, il ne s'agit pas de dire que le geste technique c'est avant tout du langage et que la philosophie serait là pour régir les conceptions techniques. Ce serait absolument stupide. La philosophie a un rôle tout à fait second là-dedans. C'est-à-dire qu'on est là aussi pour être à l'écoute des vocabulaires techniques et des techniques elles-mêmes. Mais en fait, cette dimension gestuelle, c'est une part des gestes, cette dimension langagière, pardon, c'est une part des gestes techniques. Et conserver un geste, c'est aussi justement conserver les images qui vont avec, conserver l'imaginaire technique qu'il y a autour de ce geste et grâce auquel effectivement il est transmis et grâce auquel il se relie à d'autres pensées et à d'autres types parts de la culture. Je vous remercie.
C'est hyper important d'avoir des philosophes, donc ce n'est pas inutile. Sur ce rapport à cette question aussi sur le Chuang-tzu, donc ça c'est une référence qu'on partage aussi avec des collègues, donc ça c'est extrêmement intéressant. Donc je vous remercie pour cette référence. Peut-être que peut-être que la fable aussi du Charon-Pienne, elle peut être intéressante aussi si vous avez l'occasion de la trouver sur Internet. Elle est intéressante. On va attendre que ça s'éteigne. La fable du Charon-Pienne, elle est intéressante parce qu'elle apporte des choses un peu complémentaires, c'est-à-dire la question de la transmission. Bon, ça, je pense que c'est un élément qui est extrêmement important aussi dans la. Parce que le geste technique, c'est aussi un aspect social, c'est aussi un rapport à cette transmission. Et si on se rappelle, il explique qu'il y a beaucoup de difficultés justement à transmettre aux générations futures ce geste. Donc je vous laisserai la lire. Et ça rappelle du coup aussi des aspects très intéressants du travail de Wittgenstein, je trouve. Sur justement le fait de taire des choses parce qu'on ne les connaît pas. Ça c'était juste pour compléter un peu les références qu'on aime bien partager. Et moi j'avais une question en fait particulière, c'était, vous avez évoqué le métier, qu'est-ce que vous pourriez nous dire justement sur cette différence entre emploi et métier, par exemple, comme le disait comme le différenciait Bernard Stiegler, par exemple.
Merci déjà pour les références. Je ne suis pas un grand lecteur de Wittgenstein, donc peut-être qu'il faudrait que j'y retourne. J'avoue que je ne suis pas absolument certain de la manière dont Stiegler fait emploi et métier, même si je pense voir à peu près. Disons que... En tout cas, par rapport à Sennett, comment est-ce que Sennett envisage, il serait la chose ? Ce serait, au fond, d'un côté, donc la recherche du travail bien fait. Mais pour rechercher le travail bien fait, il faut qu'il y ait finalement une espèce de stimulation. Il y a une pensée assez intéressante de la machine, dans la mesure où, pour lui, la bonne utilisation de la machine, c'est la machine comme, on va dire, un modèle. Non pas qu'on va chercher à imiter en s'épuisant, parce que clairement, on n'ira jamais aussi vite qu'une machine pour produire 15 000 épingles en une heure, mais en voyant comment fait la machine, voir où nous, effectivement, en tant qu'humains, on peut combler ces lacunes, on peut la réutiliser, la remettre dans un autre processus, et comment on peut éventuellement aussi s'adapter en imitant ces techniques. Au fond, là, c'est un petit peu le rapport qu'il peut y avoir dans le jeu de Go, où le fait que l'arrivée d'AlphaGo a changé les joseki, a changé les ouvertures, les manières de jouer, et que ça a été aussi un enrichissement du Go à ce niveau-là. Donc ce serait une première manière, effectivement, de voir, de dire qu'il y aurait effectivement métier quand il y a cette progression imaginaire qui est possible, par opposition à l'emploi. Alors j'aimerais peut-être tout le temps parler de travail, qui est juste le fait d'avoir un salaire et de réussir à assurer ses conditions de vie.
Merci beaucoup.